À tous. En 1978, il y a 48 ans, Karen et moi, nous sommes venus en France avec l'ambition d'implanter des églises protestantes évangéliques dans les villes où il n'y en avait pas. Tout cela, bien sûr, pour la gloire de Dieu. Ça, c'est noble, n'est-ce pas? On a quitté notre pays et on allait évangéliser la France. Tout a commencé bien ici à Aberville, à l'école de langue, pour l'apprentissage de la langue française, suivi par l'intégration à une union d'églises dans la région parisienne. En consultation avec le conseil de cette union, nous avons choisi la ville, nous y sommes installés et nous avons commencé. Très facile, n'est-ce pas? Pas du tout. Ah non, ça n'a pas été évident, ni pour ce projet d'implantation, ni pour les autres qu'on allait diriger dans les années à venir. Parce que s'engager à un projet pour le Seigneur, c'est une chose. Persévérer jusqu'à l'accomplissement de ce projet, ça c'est autre chose. Et c'est pour cela que j'apprécie d'une manière particulière le passage que nous allons voir ce matin. Alors, pour vous rappeler un peu ce que nous faisons une série sur les petits prophètes, ces 12 derniers livres de l'Ancien Testament qu'on ignore trop souvent dans nos lectures, mais ces petits prophètes, petits dans la longueur, pas dans l'influence du peuple, mais ces 12 petits prophètes que nous avons déjà vus. Et si vous avez suivi, nous avons déjà fait les 9 premiers petits prophètes qui parlent justement avant la déportation, avant d'être punis par le Seigneur à cause de leurs œuvres et tout, et ils devaient partir à Babylone. Mais les 9 premiers, nous avons déjà vu. Alors, si vous vous posez la question de quoi s'agit ces images à côté de chaque titre, ça veut dire que vous n'étiez pas là ou que vous avez oublié. Donc, vous pouvez consulter ces prédications sur le site, mais on a déjà vu qu'à 9 reprises, Dieu a parlé à son peuple par les prophètes sur les thèmes différents. Par exemple, Osée, le cœur brisé de Dieu par le manque d'amour. Joël, attention, le jour du Seigneur arrive. Amos, sommes-nous connectés? Sommes-nous prêts à écouter ce que Dieu veut nous dire? Abdias, comment faire face à la persécution? Jonas, à quel point la désobéissance coûte cher? Michée, comment faire face à comment vivre la foi dans une société marquée par la corruption? Nahum, attention. Même si vous avez suivi le Seigneur d'un jour, vous pouvez tomber de nouveau dans l'incrédulité, il faut faire attention. Habacuc, le doute à la foi, que faire quand on pose des questions et on ne sait pas, Dieu, qu'est-ce que tu fais, je ne comprends rien. Et dernièrement, Sophonie, attention à la fermeture automatique des portes. Un jour, la porte sera fermée, et ça définitivement. Êtes-vous dans le train avant que le Seigneur arrive? Mais maintenant, nous allons voir Agée. Alors, Agée et les deux autres, Zacharie et Malachie, c'est un groupe un peu différent parce que eux, ils parlent au peuple après ce séjour à Babylone, après les années de captivité. Et Agée, c'est le premier qui va parler au groupe. On ne parle plus de « le jugement arrive, le jour du Seigneur ». Tout cela était très important. Mais maintenant, ils ont vécu ce moment extrêmement difficile. Et ils peuvent maintenant rentrer dans leur pays. Dieu les délivre de ce moment de captivité. Et ces 3 prophètes vont dire « alors bon, vous avez appris une leçon extrêmement dure, mais il faut recommencer maintenant ». Quels sont les principes pour continuer les projets du Seigneur? Dieu avait envoyé un autre roi, Cyrus, roi des Perses, qui a permis aux Juifs de rentrer dans leur ville, rétablir leur maison, rétablir tout, et même à ses frais. Alors c'était quand même extrêmement incroyable. Après 70 ans de captivité, ils avaient cette bénédiction que Dieu pouvait leur offrir. Si vous voulez, et même une personne, Esdras, a reçu la commission particulière de reconstruire le temple. Mais pas n'importe quel temple. Reconstruire le temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar et les Babyloniens. Et c'était quel temple? Le temple de Salomon. Alors là, ça, c'était quelque chose, le temple de Salomon. Et Esdras a reçu la commission, et même aux frais du roi, de rebâtir le temple. Le temple que Salomon avait construit. Alors ça, c'est un projet extraordinaire. Un projet, une porte ouverte, un noble projet, ça serait facile, n'est-ce pas? Pas du tout. Si vous voulez lire cette histoire, vous pouvez trouver dans votre Bible le livre d'Esdras qui raconte comment il a reçu la commission et comment il a pu faire ce projet à la gloire du Seigneur. Mais Agier, bien sûr, Esdras, il va raconter tous les obstacles, surtout de l'extérieur. Les gens du pays qui n'étaient pas du tout d'accord, qui allaient mettre tous les bâtons pour empêcher, qui allaient faire tout pour le décourager et arrêter l'œuvre. Mais chaque fois, Dieu a intervenu pour leur donner les moyens de continuer. Et Esdras raconte tout cela. Esdras parle aussi des autres problèmes, mais cette fois-ci des problèmes de l'intérieur, des obstacles qui venaient du peuple même. Et Agier, lui, prophète à la service du Seigneur à ce même moment, lui, il va parler précisément de ça. Est-ce qu'il y aura des obstacles vous voulez suivre le Seigneur, si notre Église veut vraiment faire des projets pour le Seigneur, aurons-nous des obstacles de la société, des gens de l'extérieur? Oui, ça fait partie de ça. Mais que faire quand l'obstacle vient de l'intérieur? Quand le problème, c'est nous? Ça, c'est le sujet que nous allons voir ce matin avec Agier, quand la porte est fermée, mais pas à cause des gens de l'extérieur, mais la porte reste fermée à cause de nous. Alors, petite parenthèse théologique. Je vais parler des comportements qui freinent le progrès de l'œuvre de Dieu. Et on pourrait dire, rien ne freine l'œuvre, le Seigneur va faire ce qu'il veut, il ne sera sans nous ou avec nous. Les plans du Seigneur s'accomplissent malgré nous des fois. Oui, ça c'est vrai. Et je ne mets pas en question cette vérité théologique. Mais Agier ne part pas de ça. Agier ne part pas du fait que, est-ce que le Seigneur il dit, oh là là, j'allais faire quelque chose, mais avec ce genre-là... Non, mais Dieu n'est pas comme ça, on est d'accord. Il va accomplir son plan sans ou avec nous. Mais... quel est notre rôle? Quelle est notre attitude? Que faisons-nous pour accomplir l'œuvre du Seigneur? Ou qu'est-ce qui vient de nous pour freiner l'œuvre du Seigneur? Maintenant, une petite parenthèse en anglais pour les pauvres étudiants qui me regardent comme ça. For you new students, just a quick word to catch you up a bit on what we're talking about. I will be preaching on the prophet Haggai, who is the first prophet to talk about to the people after the deportation in Babylon and talking about problems that come in the work of the Lord, not from exterior problems, but from interior, the bad attitudes or bad ways of life that we can have in the inside of the church to block the word, the work of the Lord in our lives. And if you want to read more, you can find Haggai in your Bible. It's only 2 chapters. It won't take too long. And for the rest of it, you are on your own. J'étais étudiant aussi, donc je comprends ce que c'est. Alors, on va voir Agier et ce que je veux dire. Attention aux comportements qui freinent les projets. Parce que... maintenant, il faut penser en français, oui. Maintenant, Agier, il va parler de 3 domaines et avec peut-être 3 expressions, 3 phrases qui résument les difficultés que Agier a constatées dans la vie du peuple. D'abord, l'attitude, ce n'est pas le bon moment. Ça, il va traiter au chapitre 1. Ou ce n'est pas comme ça que je vois les choses, au chapitre 2. Et à la fin du chapitre 2, mais ça, c'est trop exigeant. Et avec ces trois attitudes, avec ces trois comportements, si on ne fait pas attention, on peut voir que l'obstacle au progrès du Seigneur pour notre Église, mais ce n'est pas l'extérieur qui freine, c'est nous. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Alors, tout d'abord, ce n'est pas le bon moment. Voilà le texte qui nous intéresse au chapitre 1. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Haggai. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple reste en ruine? Oui, Esdras et compagnie avaient le projet de rebâtir le temple. Ça, c'était un travail formidable, mais très difficile. Il demandait beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Et Haggai pose la question, mais vous dites, ah, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas encore le moment. On le fera un de ces jours, mais ce n'est pas encore le bon moment. Et Haggai dit, mais semble-t-il que vous avez assez de temps pour reconstruire vos maisons, pour même de faire d'une manière formidable, vous avez assez de temps de faire ce qui vous convient pendant que le temple reste en ruine. Alors, quel est le problème? Mais le problème, c'est des questions de priorité. C'est une question de projet, de propre projet, de préoccupations. Autrement dit, quand j'aurai plus de temps, ou plus de moyens, ou plus de ceci, éventuellement, je pourrai participer à l'œuvre de Dieu. Et Haggai dit, mais vous avez assez de temps, parce que le Seigneur vous a béni d'une manière extraordinaire. Il vous a donné la liberté de rentrer dans votre pays, de rétablir vos villes, etc., etc. Alors que pour nous, bien sûr, on n'est pas dans la situation de ces gens-là. On ne vient pas de rentrer de 70 ans de captivité ailleurs et tout. Oui, mais l'œuvre du Seigneur, devant nous, devant notre Église, quelle est l'attitude pour les projets? Quels sont nos comportements? Oh, ce n'est pas encore le bon moment. Alors, quand j'ai lu cela, j'ai réfléchi un peu à notre ministère pendant ces 48 ans ici en France, dans l'implantation des églises, et je me suis posé la question, mais quand est-ce que moi, j'étais confronté par ce comportement avec les gens avec qui je travaillais, pour l'implantation de l'Église, pour le développement de l'Église, pour avoir une Église protestante évangélique qui avait un témoignage dans telle ville? Quand est-ce que j'ai vu ce type de réaction? Mais tout d'abord, il y avait l'idée d'implanter une église, de démarrer une nouvelle église, surtout à partir d'une église existante. C'est-à-dire qu'une église qui fonctionne déjà, on leur dit « Oui, mais dans telle vallée, dans telle ville à côté, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de témoignage. Pouvons-nous démarrer une église là-bas? » Mais oui, mais avec qui? Mais avec nous! Avec des gens de notre église. Oh, alors là, oui, mais quand on aura plus de membres, quand on aura plus d'offrandes, quand on aura, et la liste était longue, quand, on pourrait éventuellement prévoir cela. Le temps, ce n'est pas le bon moment. Alors, une fois cette question abordée et on commence quelque chose, il y avait toujours la question dans le local. Allons-nous louer, bâtir, acheter? Ou ce n'est pas encore le bon moment? Parce que il y avait toujours des questions. Est-ce que d'abord l'église n'est pas un bâtiment? On est d'accord. Ce n'est pas les murs. Donc il y avait toute une discussion théologique sur le mur, les murs de l'église et le sens du monde. Mais ce n'est pas ça la question, chers amis. Il faut un endroit pour louer le Seigneur. Et comment allons-nous le faire? On n'a pas les moyens. Et pourquoi pas? Parce que quand je gagne plus d'argent et quand mon épouse peut... Il y avait toujours des objections. Pendant, bien entendu, on pouvait toujours partir en vacances et faire autre chose. Mais quand ce n'est pas encore le bon moment, toutes les questions autour d'un bâtiment. Il y avait aussi la question de, parce que moi j'étais implanteur d'église. Donc je leur ai dit dès le début, je suis là pour démarrer l'église. Mon salaire est assuré des églises généreuses aux États-Unis, mais vous aurez besoin de vous, de votre pasteur, à vos frais. Oh, mais le temps n'est pas venu, ce n'est pas encore le bon moment. Il y avait toujours des questions de budget pour le pasteur, et bien entendu, sans parler d'un stagiaire en plus, oh là, ce n'est pas le bon moment. Et les missionnaires à soutenir, il y avait toutes ces questions de budget. Le temps n'est pas venu, ce n'est pas encore le bon moment. Alors, chose intéressante, j'ai écrit tout cela, c'était déjà écrit dans mon ordinateur, les papiers et tout, quand j'ai reçu ce mail. Vendredi 6 février à 20h, soirée église. Et je vous assure que le conseil ne m'a pas écrit, Paul ne m'a pas écrit pour dire « voilà ce qu'il faut dire ». Non, j'avais déjà fait tout cela. Quand je reçois ce mail, 4 sujets feront l'objet de nos échanges et de nos prières. Projet extension des locaux, le bâtiment. Éveil à la foi, programme pour les enfants. Accompagnement missionnaire, y inclut soutien d'ailleurs, suite à la rencontre d'octobre, et recherche de pasteurs. Ah, oh, mais voilà, on se trouve dans la situation d'Agir. On est face au projet, qu'est-ce que nous allons faire pour le développement, la suite, l'avenir, l'influence de notre Église dans notre ville ici. Ce sont des questions de tous les jours. Mais la question se pose, quand on est face à de telles questions, est-ce que notre réponse plutôt automatique, c'est « ah, mais ce n'est pas le bon moment ». Oh, le moment viendra, oui. Ce n'est pas une question « est-ce qu'il faut le faire ?» Oui, mais pas maintenant. Plus tard, on verra ça après. Et on va en parler. Et les années passent. Parce que dans mon expérience, j'ai vu que pour des églises, par exemple, pour l'implantation d'une église, je connais une église depuis 40 ans qui parle depuis 40 ans de démarrer une autre église dans une ville voisine et ce n'est pas encore fait. Parce que ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment. Je connais des églises qui parlent de bâtiments, de projets et tout depuis des années et des années. Et moi, je dirigeais un tel projet. On était dans une toute petite église. C'était un tiers de cette salle. Et on n'avait pas de place. Et je leur ai dit, il faut autre chose. Oui, Paul, tu sais que... Mais il faut trouver un endroit. Et dans notre église, on avait quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment, qui avait le contact partout, qui me téléphonait pour dire, j'ai trouvé tel local, ça, ci et cela. Et chaque fois que j'ai présenté cela, oui, mais ce n'est pas le bon moment. Et ils sont toujours dans cette petite salle. On peut être handicapé, paralysé par cette attitude que oui, on verra. Sans parler de pasteurs, de stagiaires, de soutien des missionnaires, ce sont des problèmes actuels de l'Église. Alors, quelle est la réponse que la Bible nous donne? Je vous donne ce que Jésus-Christ a dit lui-même dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, quelles choses? Mais vous lisez les dizaines de versets avant, le vêtement, la nourriture, les besoins de notre vie, tout cela, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de tout ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et dans mon expérience, et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens dans notre monde entier, peut dire que quand on met le projet du Seigneur en avant, mais il pourvoit à toutes les autres choses. C'est une question de priorité. Ce n'est pas encore le bon moment aussi, c'est le bon moment. Mais sommes-nous prêts, par la foi, à aller en avant? Donc ça, c'était le premier mauvais comportement que Agé avait constaté dans la vie du peuple. Après, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Ça, c'est un peu plus subtil. Mais regardons ce qui se passe. Parce que après 70 ans, ils rentrent pour reprendre possession de leur pays pour la reconstruction du temple. Mais le temple, surtout, était un sujet particulier. Et ils posent la question, reste-t-il parmi vous quelqu'un qui a connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Alors mettez-vous dans la place de ceux qui avaient vécu le temple de Salomon et tout le pays avant d'être déportés en Babylone. Ils avaient vu tout ça. Et maintenant, eux, plus âgés, bien entendu, ils reviennent et ils voient le fondement et ils voient les travaux par rapport à ce qu'ils avaient déjà vu avant. Et Esdras, alors il faut lire, si vous n'avez pas le temps de lire tout Esdras, lisez au moins chapitre 3. J'aime beaucoup Esdras chapitre 3 parce qu'il raconte qu'ils avaient posé des fondements et il y avait tout le rassemblement du peuple et il y avait des anciens qui commençaient à pleurer parce qu'ils ont dit « oui, mais on avait déjà vu ». Ils avaient pour eux, c'était « oui, mais c'est… » Et il y avait la jeune génération qui éclatait des cris de joie, c'était la grande fête. Au point où Esdras a dit on ne pouvait plus distinguer entre ceux qui pleuraient et ceux qui exclamaient la joie pour ça. Parce qu'il y avait deux façons de voir les choses. Il y avait ceux qui avaient dit « oui, mais on aurait pu faire beaucoup mieux ». Et d'autres qui disaient « bon, ça c'est génial, alors que faire quand dans une assemblée du peuple, il y a des points de vue, des perspectives différentes ?» Mais j'espère qu'on peut savoir, parce que c'est le cas de toute église locale. Nous venons des cultures différentes, et je ne parle pas uniquement de nationalité, mais de régions, de vie chrétienne, de unions d'églises différentes. Et comme il est facile dans la vie de l'église de dire « oui, mais ce n'est pas comme ça que j'ai vécu ». Ah non, 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 dans mon église précédente, c'était comme ça. Et je me souviens que, et on parle de notre propre expérience, de ma façon de voir les choses. Et c'est, alors, pour Agier, après, il va leur donner un mot de réconfort aux anciens pour dire, mais ne vous inquiétez pas, l'œuvre que Dieu a commencée sera même plus grande. Ça sera formidable, Dieu s'occupe de tout ça. Il a donné un mot de réconfort à ces anciens qui voyaient les choses autrement. Mais on n'a pas ce projet devant nous. On n'est pas en train de reconstruire le temple de Salomon. Nous sommes en train de construire quelque chose ici à Haberville pour être un témoignage, sel et lumière pour la ville d'Haberville et j'espère pour la région. Comment allons-nous le faire si nous avons des points de vue différents où on voit les choses d'une autre manière? Je me souviens d'une implantation d'une église où j'appréhendais les assemblées générales parce que je savais qu'il y avait parmi nos chers membres un membre avec beaucoup d'influence qui avait une phrase qu'il aimait toujours dire à chaque proposition. « Je suis contre. » On sait déjà, on savait. Ouais, « Je suis contre. » Oui, mais à un moment donné, il faut décider. Il faut aller en avant. Et même, je me demande combien ne le disent pas à haute voix. Mais pendant la présentation, je suis contre. Non, je ne vois pas comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. On compare le présent avec le passé, avec nos expériences précédentes et avec ce qu'on veut faire. Oh, alors, et quand il y a des grandes questions, des qualifications et responsabilités du pasteur, quand on est à la recherche d'un pasteur, et on se retrouve bientôt dans cette situation. Nous avons tous une image du pasteur parfait que nous allons trouver, n'est-ce pas? Il n'est pas âgé, mais il n'est pas jeune. Il aime beaucoup l'administration, mais il n'est pas préoccupé par ça. Il est toujours dans les maisons pour rendre visite aux gens. Il a tout son temps. On a une liste impossible à remplir. Cette personne, chers amis, n'existe pas. Alors, admettons-le. Oui, mais nous avons tous nos préférences. Tous nos préférences. Je veux quelqu'un qui... Et je vous laisse remplir les conditions à la recherche. Et si on ne fait pas attention, mais on pourrait dire que mais ce n'était pas mon choix. Je ne voyais pas les choses comme ça. Et avec une telle attitude, on ne va pas faire beaucoup de progrès ensemble. À un moment donné, il faut décider. Ou bien sûr, les responsabilités du couple pastoral et choses comme ça. Le fonctionnement de l'Église. Comment faire la direction de l'Église? Le déroulement du culte, la louange, la sainte scène, les offrandes. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait dans notre Église. Et on peut faire des discussions interminables sur des questions de ce genre. Les rôles, les services, les relations publiques. Tout ce qui... Et la vie de l'Église. Il y a une façon de le faire et nous devons décider ensemble, dans l'unité qui vient du Seigneur, comment nous allons le faire. Sans tomber dans ce piège. Mais ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Quelle est la réponse que la Bible nous donne à cela? Je vous propose Philippiens. Pardon, je vais trop vite. Ah oui. Dans Philippiens chapitre 2, rendez ma joie parfaite. C'est l'apôtre Paul qui parle à une église. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. D'après mon expérience, si une église mettait ça en pratique, on aurait une vie d'église extraordinaire, où on pourrait accomplir des choses inimaginables autrement. Parce qu'à un moment donné, il faut dire, ce n'est peut-être pas ma préférence, mais bon, allons, nous allons le faire ensemble. Imaginez une assemblée générale où tout le monde disait « Amen, allons-y ouais. !» On aura une assemblée générale dans quelques semaines, mais bon, bref. Non, mais ça, c'est l'attitude ou le comportement à que j'ai voulu en parler. Troisièmement, c'est trop exigeant. Dieu demande trop de nous. Regardons ça. Alors ici, c'est un petit contrôle théologique pour des sacrificateurs, pour les prêtres et tout. Agé parle avec un groupe particulier et il leur donne un petit contrôle sur leur connaissance de la loi de Moïse. Alors, si vous n'êtes pas au courant de toute la loi de Moïse, ce n'est pas grave. Deux questions assez simples, mais que Agé a posées à ses spécialistes de la loi pour voir ce qu'ils allaient dire. Alors, il dit, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Demande donc aux prêtres leurs instructions. Dis-leur, alors, premier cas, si un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande sainte, et que ce pan de vêtement entre en contact avec du pain, avec un mets cuit, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré? Non, répondirent les prêtres. Et là, 20 sur 20, hein, ça c'est la bonne réponse. Avoir quelque chose de sacré et en contact avec quelque chose d'impur, c'est, la chose sainte ne rend pas les autres choses saintes. Ça c'est et très bien. Alors, Agé redemanda, si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche à l'un de ses aliments, ceux-ci seront-ils rendus impurs par là? Oui, répondirent les prêtres, ils seront impurs, parce qu'ils savaient que, d'après la loi de Moïse, être en contact avec quelque chose de saint ne purifie pas les autres choses à l'extérieur. Ça, on ne passe pas la sainteté aux choses impures, autrement dit. Et ils savaient aussi que si on a quelque chose, on est dans une situation impure, cette présence rend tout impur autour d'eux. Alors ça, c'est la loi de Moïse, un peu compliquée, mais autrement dit, la sainteté et l'impurité ne se mélangent pas. Ça, c'est ou bien saint ou c'est impur. Pas les deux ensemble. Les deux ne coexistent ensemble. Et donc, à leur âgé, reprit et dit, « Ainsi en est-il de ce peuple ? Voilà ce qu'est cette nation à mes yeux, l'Éternel le déclare. Ainsi en est-il aussi de toutes leurs réalisations et de tout ce qu'ils m'offrent là, c'est impur. » Autrement dit, Agé devait dire à ce peuple, « Mais il y a des compromis dans votre vie. Il y a des choses qui ne s'accordent pas du tout avec la loi que Dieu nous a donnée. Et vous pouvez faire toutes sortes de bonnes choses, mais si ce n'est pas avec un cœur consacré à l'Éternel, avec la sainteté que Dieu nous donne, mais tout cela est impur. Ce n'est pas une question, mais 80 sur... On a quand même une sainteté de 80%, mais ça, non. Sainteté de 80% égale zéro. C'est impur. Ou bien on suit ce que Dieu nous demande, ou on ne le suit pas. Il n'y a pas de mélange. Alors, on n'est pas touché par la loi de Moïse dans la vie de notre Église, mais je me suis réfléchi, mais... Ça veut dire donc qu'il y avait des compromis. Il y avait des éléments dans la vie du peuple qui freinaient l'œuvre de Dieu parce qu'ils n'étaient pas complètement consacrés qui vient de Dieu. Et je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on voit ça dans la vie de notre Église et de nos Églises en France et dans le monde actuellement? Mais les compromis, par exemple, le compromis moral. Le compromis moral, on parle du sexe et de la sexualité, le mariage, le divorce, le mensonge, la tricherie, les déclarations qui ne sont pas vraiment... Bon, c'est presque tout, mais il ne faut pas tout dire. Des impôts, de toute manière, le gouvernement ne va pas bien utiliser cet argent, donc bon, c'est mieux pour nous de garder cet argent pour utiliser pour le Seigneur. Ah, non, ça ne marche pas. C'est ou bien légal ou ce n'est pas légal. Les réglementations, il n'y a pas de péché mignon, etc. Comme ça. Le compromis dans notre façon de raisonner. Est-ce que nous voulons suivre ce que Dieu nous demande, même si ce n'est pas, ça nous coûte un peu plus cher, ou même si ce n'est pas ce qu'on aurait voulu faire avec, ben, il faut qu'on décide. Le compromis doctrinal, l'interprétation des textes pour s'aligner aux mœurs de la société. Et là, je vois de plus en plus. Vous voulez une réponse à ce que la Bible dit? Vous avez Google, bien entendu. S'il vous plaît, n'utilisez pas Google pour décider ce que Dieu veut sur tel ou tel point. J'ai trouvé sur des sites des choses incroyables et extrêmement dangereuses sur le plan de doctrine. Vous avez une idée de ce que on pense que Dieu aurait approuvé? Vous allez trouver des docteurs de la loi sur l'Internet qui vont vous accorder la permission de croire comme ça. Oui, parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut de la Bible si on ne le traite pas correctement. Vous voulez prouver un tel ou telle chose qui est dans la volonté du Seigneur? Google it. C'est ce que ma fille m'a dit. Papa, Google it. Si tu as une question, la réponse est là. Oui, peut-être pour quelque chose, mais pas sur les choses comme ça. Les compromis de doctrine. On peut faire prouver tout ce qu'on veut si on commence par l'idée et après on trouve les textes bibliques pour prouver cette idée. La Bible ne se présente pas comme ça. La Bible est une collection de 66 livres qu'on doit lire du début à la fin pour discerner ce que cet auteur voulait dire. Point. Et pas autrement. Le compromis fraternel. Alors ça, c'est vraiment subtil. On sait ce que Dieu nous demande. Aimez-vous les uns les autres, voilà. Et nous sommes un dans l'amour du Seigneur. On sait chanter ça, d'ailleurs. Oh, nous sommes un dans l'amour du Seigneur et tout. Mais j'ai un petit problème avec une certaine personne qui... Dieu me demande de pardonner. Une fois, deux fois, bon, vous connaissez les textes, 7 fois, non, 70 fois, 7 fois, etc. Oui, bon, je pardonne, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir vraiment une communion fraternelle avec cette personne, parce que ce qu'il a ou elle a fait, et on raisonne comme ça. Pardonner, c'est une chose, amour fraternel, ça, c'est autre chose. Et... Non, mais qu'est-ce que Dieu nous demande ? Aimez-vous les autres, pardonnez-vous réciproquement, s'il y a la moindre chose. Et la Bible dit aussi que si vous avez un problème avec quelqu'un, vous devez laisser vos offrandes, vous réconcilier avec cette personne. Si l'autre, et c'est les deux qui doivent faire le premier pas. Les deux. Et combien de fois est-ce que j'ai fait dans ma vie, et vous avez certainement eu la tentation de le faire, quand l'autre demande pardon, on en parlera. Ça c'est un compromis fraternel. Non, et ce que j'aime, pour moi, que j'ai vu tant de fois, j'étais le pasteur, donc on venait me voir pour me parler de quelqu'un d'autre. Et ma première question, c'était, mais est-ce que tu as déjà parlé de cela à cette personne? Oh, mais non, mais je vais le faire. Mais je voulais d'abord t'en parler. Non. Il faut aller voir l'autre personne. Non, mais je te partage son sujet de prière. Oh, ça, c'est vraiment génial comme phrase, comme sujet de prière. Autrement dit, dans l'esprit de prière, je vais te dire tout ce que je veux sur cette personne-là. Non. Ça, c'est un compromis fraternel. Et s'il y a un mélange entre les attitudes comme ça et la sainteté, notre louange et notre désir de marcher la main dans la main avec le Seigneur, et il y a ces attitudes-là, ça c'est un compromis. La sainteté face en présence avec l'impureté rend le tout impur. Ça c'est ce que Agnès voulait dire. Ne pensez pas que vous pouvez mélanger la sainteté de Dieu et vos propres péchés, vos propres attitudes, vos propres mauvais comportements, et pensez que, mais pour Dieu c'est pareil. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Parce que, comme Pierre a bien dit dans 1 Pierre 1, 15 et 16, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et ça, c'est le commandement que Dieu nous donne. Alors, la question se pose. Attention aux comportements qui freinent les projets que Dieu nous confie. Est-ce que nous posons ces trois questions, ou est-ce que nous les disons comme ça, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas comme ça que je vois les choses, c'est trop exigeant? Si ce sont ces trois comportements présents dans la vie de notre Église, mais il faut faire face à la réalité que nous n'aurons pas la bénédiction de Dieu comme on aurait pu avoir si on était d'accord avec ces priorités-là. Donc, ma question pour nous, et à moi-même et à nous tous, à l'Église protestante évangélique d'Aberville, sommes-nous prêts à dire... Ce n'est pas le bon moment? Non, c'est le bon moment. Allons ensemble, nous allons le faire. Est-ce que c'est comme ça que je vois les choses? Oui, je vois les choses d'une certaine manière, mais ensemble, nous allons avancer. C'est trop exigeant? Oh oui, c'est exigeant. Mais pour la gloire de Dieu, nous le ferons. Parce que quand on regarde comme ça, et je termine avec cette idée-là, nous sommes dans une guerre spirituelle. Ce n'est pas tout simplement nos projets, notre assemblée générale avec des points, voilà. Ce n'est pas une question administrative. C'est une question spirituelle. C'est notre vie de corps de Christ ici. Et quand on regarde des choses comme ça, on voit que notre ennemi, le diable, ne veut pas qu'on avance. Oh, comme il n'est pas content quand une église marche ensemble avec le Seigneur. Donc il va d'abord tout faire pour reporter le projet, pour nous pousser à poser, oui, un jour. Il va tout faire pour nous empêcher même de démarrer le projet. Ça, c'est la première question. Après, si il n'arrive pas à faire ça, mais il va tout faire pour nous diviser et pour nous aider, pour nous faire passer tout notre temps en discussion interminable, parce qu'il veut nous diviser et décourager. Comme ça, ça freine l'œuvre du Seigneur. Et si ça ne marche pas, si nous sommes d'accord d'avancer et nous sommes d'accord de le faire dans l'unité, mais il va faire tout son possible pour nous donner des tentations pour compromettre, pour ne pas faire comme lui, il voulait le faire. Pour que vous le fassiez, d'accord, mais il faut le faire mal. Et dans les trois situations, c'est l'ennemi qui gagne. Donc, mon exhortation pour vous, pour nous, au début de cette année 2026, c'est le bon moment. Même avec nos différences, allons ensemble. Et surtout, dans l'unité qui vient de Dieu, dans notre Dieu trois fois saint, par son Saint-Esprit qui habite en nous. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour ces prophètes qui ont parlé dans leur temps, de leur situation, mais qui nous parlent aussi. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de notre Église. Nous sommes reconnaissants ce matin. Tu nous as donné au-delà de tout ce que nous pouvons demander, mais nous voulons avancer même plus avec toi. Ô Seigneur, que tu nous diriges dans les jours à venir. Nous avons de grandes questions devant nous. Nous avons des défis, mais nous voulons te demander déjà de nous donner toute la sagesse, toute la volonté pour faire ta volonté, parce que ta volonté est parfaite. Merci pour tout ce que tu feras parmi nous. Au nom de Jésus. Amen.